Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc le cours de ce soir, de ce 15 février 2018, entre dans le thème des sacrements de l'Église qui a été donc annoncé. C'est le cinquième cours de cette série. Et donc le cours précédent est un cours qui était consacré au sacrement du baptême. Et donc ce soir, ça va surprendre personne si j'annonce que le cours est consacré au sacrement de la chrismation. C'est un ordre qui n'est pas uniquement un ordre scolaire ou académique, mais qui est l'ordre même de la célébration, puisque tout le monde sait que quand on célèbre ce qu'on appelle la triple initiation, le triple sacrement de l'initiation chrétienne, eh bien c'est dans cet ordre-là que les actions liturgiques sont accomplies, c'est-à-dire le baptême, la sainte chrismation et ensuite l'Eucharistie. Donc je peux déjà vous prévenir qu'un prochain cours sera consacré à l'Eucharistie dans cette même lignée de sacrements. Il faut aussi savoir que il existe un lien substantiel entre ces sacrements sur des actions successives, baptême, chrismation, eucharistie, mais qu'en réalité il s'agit probablement, on peut dire, d'un seul et même mystère, qui est le mystère de l'incorporation au Christ. Baptême lui-même, vous le savez très bien, donc c'est l'immersion, c'est l'incorporation au Christ par l'immersion, mais surtout l'incorporation au Christ par la foi et par l'engagement dans le dialogue pré-baptismal, l'engagement à s'unir au Christ, à suivre le Christ, à faire sa volonté et donc à s'attacher au Christ et à son Église. Donc c'est une façon dont la personne s'incorpore au Christ avant même l'immersion, mais donc on est bien avec un phénomène d'incorporation, de christification, et justement la christification, c'est-à-dire que la transformation en Christ ou l'assimilation en Christ continue à se faire, et se fait de manière peut-être plus précise encore par la chrismation, d'ailleurs à l'oreille on entend que christification, chrismation, Christ et chrismation, c'est probablement de la même famille, de la même racine. Et ensuite, l'Eucharistie, par excellence, l'incorporation aussi au Christ, mais dans un sens inverse, c'est-à-dire que c'est en absorbant, c'est non pas en étant immergé dans le Christ, mais c'est en absorbant le Christ, le corps du Christ, le sang du Christ, qu'on achève cette incorporation sublime de l'homme à l'homme-dieu. Hein, c'est ça qui est là le grand événement, disons, de l'Église. Hein, l'incorporation de l'homme à l'homme-dieu, ou Dieu-homme, plus exactement, qu'est le Christ. C'est ça la base de tout, c'est ça l'espérance aussi de tout. Alors, pour arriver plutôt avec plus de précision à notre thème de ce soir, c'est-à-dire la Sainte Chrismation, je rappelle aussi que j'ai suivi l'ordre de trois formes de pensée, qui sont la pensée de la purification, la pensée de la consécration et la pensée de la sanctification. J'ai parlé de ça, j'ai dit que ce serait quand même principalement mon thème directeur cette année en parlant des différents sacrements: purification, consécration et sanctification. Je ne sais pas s'il faut réexpliquer ces mots-là, ils ont été expliqués, je pense, dans des cours précédents, mais j'avais tenu à montrer que ces trois mots désignent effectivement trois étapes différentes, distinctes de l'incorporation justement au Christ, de l'ecclésialisation de l'être humain. La purification permet très nettement accompli par les exorcismes qui précèdent le baptême, c'est quand même assez net. Donc c'est une question de la purification, la consécration, et on l'a vu, il y a beaucoup de phénomènes de consécratoires qui font que l'être humain appartient, commence à appartenir au Christ, commence à appartenir à l'Église, et il y a une auto-consécration qui se fait, d'ailleurs par les engagements baptismaux qui suivent les exorcismes. Il y a une consécration par le nom que l'on reçoit, il y a une consécration par l'immersion, il y a une consécration par le revêtement de blanc, où tout ce qui avait revêtu le Christ, bah, revêtir le Christ, c'est être consacré à lui, c'est appartenir au Christ. Et j'ai dit plusieurs fois déjà, au risque de lasser nos éditeurs, que la consécration est donc est un événement par lequel, pour parler d'une personne, donc appartient de façon exclusive et définitive et irréversible à une autre personne, en l'occurrence la personne divine. Donc il y a des phénomènes dans l'histoire du salut, l'histoire biblique, des personnes qui ont été consacrées, donc qui ont subi cette consécration de manière, dirait-on, passive, donc qui l'ont acceptée, et puis il y a aussi le phénomène de la consécration de soi, se consacrer à Dieu, qui est donc une façon de quel être humain de répondre à un appel et de faire tous les choix possibles pour que dans sa vie quotidienne, par exemple, il accomplisse ce don de soi, qui fait que voilà, j'appartiens à Dieu, j'appartiens au Seigneur, je t'appartiens, Seigneur. Bon, et puis, je crois nous avions dit, c'est un phénomène qui est très intéressant, c'est le fait que Dieu aussi se consacre à l'homme. Ça, c'est le phénomène de l'incarnation, où Dieu, finalement, se donne à l'homme en devenant homme, se donne à l'humanité, et se donne à elle de manière exclusive aussi, et définitive, parce que Dieu ne s'incarne dans aucune autre créature que dans l'homme, donc il y a quelque chose d'exclusif dans cette consécration, cette divine consécration de Dieu à l'homme. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup développé, mais qui ressort quand même, par exemple, du mystère de la présentation du Christ au Temple, où je crois que dans cet événement extraordinaire que nous fêtons le 2 février, il y a un peu les deux aspects. Il y a la consécration de l'homme à Dieu, mais il y a aussi la consécration de Dieu à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène de ce qu'on appelle l'incarnation, l'incarnation est un phénomène qui inclut ces deux dimensions-là, de consécration réciproque. L'homme qui dit à Dieu, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je t'appartiens, et Dieu qui dit à l'homme, et il le dit beaucoup dans la Bible, je suis ton Dieu, Israël, je suis ton Dieu, écoute-moi, suis-moi, etc., mais je t'appartiens, je suis à toi. Dieu s'est consacré à son peuple dans toute la Bible. Alors donc, ces phénomènes de consécration et la sanctification, je vous le rappelle ce que c'est rapidement, la sanctification, ça s'appelle l'assimilation. C'est pas seulement l'appartenance exclusive et irréversible, c'est supposé évidemment, mais c'est une assimilation. C'est devenir Dieu, c'est la sanctification, donc c'est la déification, c'est la divinisation. Et donc, d'après ce que j'essaie de dire, la plupart de nos sacrements accomplissent ces trois étapes, ces trois phénomènes du fait. Je sais pas si c'est un fait religieux, un fait de la vie, de la vraie vie, du salut, de la vie éternelle, enfin, dimension de la vie éternelle en Dieu. Voilà. Alors, donc, je précise que en ce qui me concerne, j'essaie de travailler à partir d'écrivains, de théologiens qui ont réfléchi à ces questions-là, c'est pas si facile, et je dois dire qu'en ce qui concerne la chrismation, c'est assez délicat. Le baptême, au fond, c'est un peu évident pour tout le monde, on le connaît bien, on sait que le baptême, ça veut dire être plongé trois fois, ressortir de l'eau, etc. Mais bon, d'une certaine façon, le baptême est un sacrement familier à la plupart d'entre nous. La chrismation, je pense que c'est beaucoup plus délicat, et je me suis aperçu justement en préparant cette intervention et en lisant plusieurs auteurs que les différents écrivains ou théologiens prennent des précautions tellement ce mystère est grand. Le mystère de la venue du Saint-Esprit dans la vie de la personne humaine. C'est l'articulation de cette venue du Saint-Esprit avec le fait que la personne humaine est déjà immergée au Christ, dans le Christ. L'articulation entre le Verbe et l'Esprit dans cet événement-là, l'articulation entre la partie strictement baptême et la partie chrismation. Il y a quand même deux étapes, comme deux moments distincts. Et en même temps, souvent, assez souvent, beaucoup de chrétiens le disent, quand on parle du baptême, on emploie un mot singulier, on dit le baptême, et en fait ça inclut l'immersion et l'onction, et l'onction du Saint-Crème. Mais en réalité, ce sont deux moments parce que ça correspond à deux, ce qu'on appelle les économies, qui sont deux économies divines différentes. Il y a l'économie du Verbe et l'économie de l'Esprit et l'économie des personnes divines dans le plan de la création. Il y a l'économie, c'est toujours ça, ce qu'on appelle l'économie, c'est justement l'action de Dieu dans la création. Et ces deux économies du Verbe et de l'Esprit ne sont jamais confondues. Elles sont unies, elles sont indissociables, elles sont inséparables, etc. Mais elles ne se confondent pas. Et nous savons cela par le fait que le Christ lui-même, à un moment, vous savez très bien, il dit ça dans l'Évangile selon saint Jean surtout, s'est retiré pour que vienne, comme il dit, un autre paraclet. Donc le Christ lui-même nous a enseigné que son économie à lui, en tant que Verbe et Fils unique du Père, ne se confondait pas avec l'économie du paraclet qui donc allait venir à partir du moment où lui s'effaçait. Donc il y a bien deux sacrements, il y a bien deux moments dans l'histoire du salut, et il y a bien deux économies distinctes. Alors, les écrivains que j'ai consultés, que je trouve les plus, complémentaires, surtout, les plus intéressants, je ne sais pas, parce qu'on trouve toujours d'autres textes, des textes nouveaux, surtout les textes anciens chez les pères, qui sont particulièrement intéressants, mais disons, parmi les écrivains contemporains, disons, les théologiens qui ont fait des synthèses pour justement les étudiants que nous sommes, j'ai trouvé les trois ouvrages que je trouve à peu près complémentaires. D'une part, ce sont des ouvrages que j'ai déjà signalés, donc c'est pas nouveau, mais sur lesquels je reviens et qui me paraissent des lectures indispensables pour ceux qui suivent ce cours. Donc c'est des choses qu'il faut avoir lues. Excusez-moi, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que vous pouvez des polycopiés ? Il y a des choses à lire qui sont déjà écrites par de très bons écrivains. Moi, mon travail de conférencier ou de catéchète, je ne sais pas comment on appelle ça, disons, ça consiste à présenter une vision synthétique du sujet, mais je vous renvoie bien sûr aux bonnes lectures. Donc ces bonnes lectures sont celles du professeur Constantin Andronikov, de Bienheureuse Mémoire, des Mystères Sacramentels au CERF 1998. C'est l'écrit du père Alexandre Schmemann, également de Bienheureuse Mémoire, d'eau et d'esprit, d'Esclée de Brouwer, Paris, 1987, et l'écrit du professeur Jean-Claude Larchet, et qui s'appelle La vie sacramentelle, publié au CERF à Paris en 2014. Donc voilà trois ouvrages que vous devez avoir lus, pas en entier bien sûr si vous voulez, mais en particulier dans les parties, les chapitres qui concernent ce cours sur la chrismation. Alors, entrons un petit peu dans le sujet, approchons-nous quand même de notre sujet. Je pense qu'il faut partir quand même d'une réalité qui est un donné objectif, et qui est la relation fondamentale et définitive entre l'Esprit Saint et l'Église. Un baptême et une chrismation, ça ne se fait pas n'importe où, d'une façon arbitraire, d'une façon capricieuse, et ça se fait dans un contexte où le Christ est déjà venu, est déjà ressuscité, est déjà glorifié, et a déjà envoyé auprès du Père l'Esprit Saint. Le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, le mariage, tous les sacrements arrivent dans un contexte qui est déjà celui de l'Église et de l'Église dans laquelle habite le Saint-Esprit par ses dons et dans laquelle le Christ est présent également, personnellement, totalement, etc., par la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est dans un contexte qu'on pourrait appeler l'Église et le Saint-Esprit et l'Église, c'est dans ce contexte-là que le baptême advient. Vous voyez, ça c'est important. C'est pas uniquement pour dire que être baptisé, ça veut dire membre de l'Église, ce qui est vrai, mais c'est que c'est parce que l'Église existe, parce que l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint et l'Église existent conjointement, parce que le Christ est présent par le Saint-Esprit dans l'Église, que le baptême est possible, que la chrismation est possible, et que l'Eucharistie est possible. Ça vous paraît plus ou moins une enfoncée des portes ouvertes. Mais tout de même, il faut quand même le dire, c'est qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui correspond à la structure de l'histoire. L'histoire universelle, elle est quand même structurée à un moment, en son milieu en quelque sorte. Elle est structurée par l'incarnation, elle est structurée par la Pentecôte, elle est structurée par la naissance concrète, palpable, de la communauté des baptisés, appelée Église, une communauté qui n'est pas une communauté tout à fait nouvelle, puisqu'elle est la continuation fidèle et sans interruption directe de la communauté du peuple de Dieu appelée Israël. Donc ce n'est pas un nouvel Israël, c'est un Israël renouvelé, accompli, en plénitude, qui se fait connaître sous le nom d'Église et qui structure l'histoire. Donc il y a un avant et un après dans l'histoire humaine. Et donc tout ce qui se passe dans l'histoire universelle depuis 2000 ans, si vous voulez, ça se passe dans un contexte qui est un contexte absolument nouveau, qui n'a jamais existé auparavant et qui donc donne à tout ce qui s'y passe un caractère absolument absolument unique du point de vue historique. Donc tout baptême, toute conversion personnelle de l'un d'entre nous advient dans ce monde nouveau, qui est quand même né de l'eau et du sang coulant du côté du Christ sur la croix. C'est un monde nouveau, c'est un monde plein de nouveautés, c'est un monde qui a une capacité aussi de nouveauté et de renouvellement exceptionnel par la présence du Saint-Esprit. Donc c'est dans ce contexte-là que le baptême arrive et est possible. Parce que, comme vous le savez très bien d'ailleurs, il est dit du Christ qu'il baptise dans l'Esprit. Et donc on baptise dans l'Esprit quand l'Esprit est présent. Présent, oui. C'est parce que c'est cette présence de l'Esprit-Saint par ses dons, ou moins sinon personnellement, on va en discuter, la présence du Saint-Esprit dans l'Église et par l'Église indirectement dans le monde entier, que le baptême est possible. Oui. C'est quand même assez important, ça explique aussi le fait que les baptêmes dans toute la mesure du possible sont célébrés dans le bâtiment appelé Église. Ça n'est pas lieu seulement dans l'Église avec un grand E, c'est dans la communauté des baptisés, mais dans l'Église avec un petit E, c'est dans un lieu consacré, un lieu sanctifié, un lieu sacramentel, qui donc clairement indique que le baptême est possible à cause de ce que Dieu a déjà fait. C'est parce que Dieu a déjà purifié le Jourdain, c'est parce que le Dieu homme a déjà manifesté la présence du Saint-Esprit au-dessus de lui-même dans le Jourdain, c'est parce que Dieu, le Dieu homme, est déjà passé par l'expérience victorieuse du désert, c'est parce que le Dieu homme est déjà passé par la transfiguration de la mort en vie à Pâques, c'est parce que le Dieu homme a déjà été glorifié à la droite du Père, que le baptême est possible. Bon, toujours penser à cela, vous voyez. Dans quel monde est-ce que le baptême a lieu? Dans quel monde est-ce que la chrismation a lieu? Donc ça veut dire aussi que l'Esprit-Saint qui est donné, par exemple, à la chrismation, c'est pas un Esprit-Saint qui descend pour la première fois, vous voyez, c'est dans la mouvance générale de la descente du Saint-Esprit, dans le prolongement, dans les conséquences, toutes les conséquences de la Pentecôte et toutes les conséquences de l'incarnation qui sont là et qui rendent possible le baptême, et qui font que le baptême est tout à fait autre chose qu'un simple rite religieux ou une simple cérémonie. Vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. Nous n'accomplissons pas seulement des cérémonies religieuses. Nous intégrons dans un événement divino-humain qui a marqué à jamais l'histoire et qui continue à féconder de l'intérieur, visiblement ou invisiblement, tout le tissu historique de l'humanité, malgré les résistances, malgré le combat diabolique des forces infernales contre cette sanctification salutaire du monde. Eh bien, malgré tout cela, la sanctification se fait. Il arrive tous les jours des saints adviennent dans ce monde, tous les jours des hommes et des femmes désirent se convertir, demandent le baptême alors qu'ils sont adultes. Oui, on voit très bien que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ce monde. Bon, ensuite il y a un deuxième point, alors, oui j'ai parlé mais là, du caractère indissoluble du baptême et de la chrismation, c'est rappelé par la plupart des auteurs que j'ai consultés. Également, je ne vous ai pas cité cela, mais je l'avais cité une autre fois, c'est le volume numéro 6 de la théologie dogmatique de Saint Justin de Chélier, de Saint Justin Popovitch. Donc il y a un paragraphe qui n'est pas très long sur la chrismation, mais donc ce qu'il dit de très très clair, c'est que les pères ont toujours associé ces deux actes sacramentels. Alors ce ne sont pas deux sacrements, je ne sais pas s'il faut dénombrer les sacrements, c'est un petit peu artificiel, on dit, alors, ça a été fait, mais c'est un peu une vision scolaire des choses, alors on fait le compte des sacrements. En fait, je pense que pour les chrétiens, il y a toujours plutôt le sentiment qu'il y a une unité profonde du sacrement de l'Église, de la vie sacramentelle de l'Église et des chrétiens dans l'Église, et que cette unité fondamentale, cette unité sacramentelle du phénomène appelé Église, qui inclut aussi toute l'histoire depuis la perte du paradis, ça inclut l'ensemble de l'histoire du peuple de Dieu. Et voilà, cette unité est fondamentale, mais donc elle s'articule, on peut dire ça, elle s'articule, elle ne se répartit pas non plus, c'est plutôt une articulation, une modulation, elle se module voilà, dans les actes sacramentels qu'on peut arriver à distinguer. Mais par exemple, si on parlera du mariage cette année, je pense qu'on aura le temps d'y arriver. Le baptême, si vous voulez, le mariage, il découle du baptême, il découle de la chrismation, il découle de l'Eucharistie. On ne marie pas les personnes qui ne sont pas baptisées. Mais tout ça, donc, ensemble, il y a une unité fondamentale. C'est pas la raison pour laquelle on ne reçoit pas à la communion eucharistique quelqu'un qui n'est pas baptisé. C'est pas parce qu'il est moins bon que les autres qu'on. C'est parce qu'en fait, il y a une unité sacramentelle indissociable, et que donc quelqu'un qui participe à la vie de l'Église, il participe à toute la vie de l'Église, et on ne se permet pas de morceler la vie sacramentelle, et donc de séparer l'Eucharistie du baptême, ou de séparer la chrismation du baptême. À telle enseigne que, par exemple, parce que j'ai vu ça, oui, c'est Saint Siméon de Thessalonique qui dit ça dans un ouvrage sur les sacrements, des sacrements, qui est publié dans la Patrologie grecque au volume 43, Saint Siméon de Thessalonique écrit « Celui qui ne reçoit pas le Saint-Crème n'est pas parfaitement baptisé. » Donc vous voyez, c'est une façon de dire qu'il y a une unité profonde entre les deux. Et il est rappelé également que, ça c'est des textes, j'ai oublié de les apporter, pardon, dans le chapitre 3, de verset 16 de Saint Matthieu, c'est le récit du baptême du Christ dans le Jourdain, et on voit très bien donc qu'il y a une unité, il y a le baptême, il y a l'immersion du Christ, et qu'il y a immédiatement ce qu'on pourrait appeler la chrismation du Christ, cette descente du Saint-Esprit, qui est une descente ponctuelle sur l'homme, l'homme Jésus, si vous voulez, mais enfin, qui est une descente éternelle, qui est la descente éternelle de l'Esprit sur l'hypostase du Fils. Et donc, on voit bien dans le baptême du Christ, on voit très bien que immersion et onction vont de pair. Il n'y a pas eu, ça n'avait même pas été séparé par une journée, vous voyez, il n'y a même pas eu lundi le baptême et jeudi la chrismation. Ça n'existe pas. Ce sont deux éléments différents, mais c'est un seul mouvement, un seul événement. Et également, vous pouvez vous référer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, on voit très bien que dans l'Église ancienne, dans la première Église, la première communauté des baptisés, eh bien, baptême et don du Saint-Esprit allaient absolument ensemble. C'est quelque chose d'indissociable. Donc ça, c'est très très clair aussi dans la pratique pastorale, vous savez, je le rappelle simplement, la pratique pastorale, quelqu'un qui n'aurait connu que le baptême, on ne le reçoit pas à l'Eucharistie. Et on ne reçoit pas à la communion eucharistique quelqu'un qui n'a pas été chrismé. Parce que justement, comme je l'ai dit à l'instant, on a affaire ici à un mystère qui est pris dans sa totalité. Alors ceci, ça a été beaucoup démontré, ce qui fait que, si vous voulez, il n'y a pas de discussion vraiment intéressante à avoir avec les chrétiens qui baptisent à tel âge et font beaucoup plus tard une chrismation, une confirmation, comme ils l'appellent. Bon, nous n'avons pas de discussion à avoir à ce sujet-là, parce qu'en fait, la tradition ancienne est très claire, à ce sujet. Alors, il y a un cas qui est quand même qui est intéressant, que je veux citer, c'est M. Larcher qui le cite, qui est un cas intéressant, qui est le cas, si vous voulez, où une personne, ça devrait arriver plus souvent, mais ça arrive quand même un peu dans nos paroisses, où une personne qui a été baptisée dans une église en dehors de la communion orthodoxe, revient vers la communion orthodoxe, veut entrer dans l'église orthodoxe, et est reçue par économie, est reçue par une démarche qui comporte la confession de la foi, l'absolution des péchés, l'onction chrismale, justement, et la communion eucharistique. Donc c'est comme ça que, actuellement, vous savez très bien que ce n'est pas du tout une obligation, on peut recevoir ces personnes-là par le baptême, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on reconnaisse le baptême comme tel, si vous voulez, mais donc on accepte la personne, on ajoute, on complète en quelque sorte ce qui peut manquer au baptême qu'elle a reçu, non ? On confère une plénitude au baptême que cette personne a pu avoir, une plénitude par cette démarche-là, et donc c'est la chrismation qui joue ce rôle de plénitude. Et donc, dans ce cas-là, justement, on voit bien que la chrismation qui est l'onction du Saint-Crème qui est faite pour cette personne qui vient vers l'église orthodoxe et qui a déjà été baptisée, on voit bien que cette onction vient s'ajouter, vient couronner, en quelque sorte, je cherchais le mot, vient couronner et remplir, combler le meilleur de ce que cette personne a pu vivre jusque-là. Donc le lien entre chrismation et baptême est spectaculaire à ce moment-là, puisqu'on ne recevrait pas, il ne suffirait pas de dire cette personne a été baptisée, on la reçoit comme telle, ou confesse la vraie foi, par exemple. On pourrait dire ça. Bon, je crois qu'il y a des églises qui le font, mais je ne pense pas que ça se défende véritablement. Il ne suffit pas de confesser la vraie foi, d'avoir l'absolution de ses péchés et d'avoir été, entre guillemets, baptisé dans une église non orthodoxe pour pouvoir être reçu à la communion. Non, il faut l'onction du Saint-Crème. Vous voyez, c'est un baptême. La personne qui vient là, elle vient bien avec un baptême qui n'a pas reçu l'onction chrismale. Bon, donc vous pensez à ça, à ce caractère indissoluble. Donc c'est dans tous les livres, tous les manuels, on vous explique ça, c'est plus ou moins bien expliqué d'ailleurs. Mais bon. Alors, bien sûr, il peut y avoir des cas où un baptême a été accompli dans un état d'urgence, dans un risque de mort imminente, ou des cas comme ça, mais de toute façon, la chrismation devra avoir lieu. S'il y a un cas, par exemple, qui peut vous intéresser, vous savez qu'on dit que tout baptisé peut baptiser. Bah oui, imaginez que vous baptisez, vous êtes à l'hôpital, par exemple, un enfant naît, et il y a effectivement un état d'urgence, donc on vous demande à vous, qui est chrétien ou chrétienne, de le baptiser, vous le baptisez, très bien, pourquoi pas, et donc il est baptisé. Mais ce baptême-là a besoin de la chrismation, il faut que dès que ce sera possible, un prêtre vienne et passe pour ce nouveau baptisé l'office de la chrismation. Il faut qu'il loigne de l'Esprit Saint. Et ça reste un baptême qui, le baptême seul est un baptême incomplet. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de pardon ce qu'on dit quand on dit ah, mais tout baptisé va baptiser. Oui, baptisé, oui, mais chrismé, non, puisque la chrismation est conféré spécialement par l'évêque ou par le prêtre. Parce que la chrismation et le don du Saint-Esprit, c'est aussi, on va y revenir plusieurs fois, la chrismation c'est également le signe de l'unité ecclésiale. Donc ce qui fait ce qui sanctionne l'unité ecclésiale, c'est justement le ministère de celui qui préside, c'est-à-dire le ministère de l'évêque, le ministère des prêtres. Donc c'est pour ça que la chrismation est faite par le prêtre ou par l'évêque. Et c'est parce que ça souligne le caractère ecclésial du baptême. Mais bien sûr, si on dit que tout baptisé baptise, un baptisé c'est un membre de l'Église. Mais le ministère du baptisé le membre du peuple de Dieu, n'est pas un ministère de présidence, n'est pas un ministère de sanction des actions divines faites dans l'Église. Bon, après ça, il y a un autre, pour s'approcher de notre thème, pour l'aborder de manière intéressante toujours, et je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même des fondements. Les fondements quels qu'ils sont, mais il y a le fondement historique, je pense que c'est quand même numéro un, enfin pour moi c'est l'élément numéro un, c'est-à-dire l'incarnation, Dieu s'est fait homme, l'Esprit-Saint est venu, l'Église a été fondée, donc c'est ça le premier fondement du baptême, hein, c'est l'histoire, avec un grand H, l'histoire du salut et l'irruption de Dieu dans l'histoire, la sanctification de l'histoire par la venue de Dieu, l'immersion de Dieu dans l'histoire, pas seulement dans le Jourdain comme tel, mais dans le temps des hommes, dans l'histoire, dans la chronologie des hommes, dans le chemin des hommes. Dieu est devenu et s'est fait l'un d'entre nous, il est venu parmi nous, il est venu avec nous, il s'est fait au milieu de nous, il s'est fait entre nous. Ça, c'est le premier fondement du baptême, premier fondement de la chrismation. C'est la descente du Saint-Esprit à Jérusalem. Donc ça, c'est vraiment numéro un. Bon, ensuite, effectivement, il y a des fondements scripturaires. Vous connaissez à peu près tous, je pense, les grands textes qui sont donnés dans l'Écriture, hein, vous voyez, qui se rapportent toujours à peu près aux mêmes éléments. Par exemple, Matthieu 3, 16, je vous l'ai dit, c'est le baptême du Christ dans le Jourdain. Saint Marc, premier chapitre, verset 10, Saint Luc, chapitre 3, verset 22, Saint Jean, chapitre 1, verset 32-33. Donc, tous ces passages-là, si vous voulez, se rapportent au fait que l'Esprit Saint est descendu, est venu sur le Christ après son baptême. Donc, il n'y a que chronologiquement, en quelque sorte, chronologiquement, la venue de l'Esprit suit l'événement christologique ou christocentrique. L'esprit, chronologiquement, de telle façon, l'Esprit vient après le Fils. Oui, et que donc ce que le Fils accomplit doit être arrivé à la plénitude par la venue de l'Esprit. Et donc il y a beaucoup de termes, par exemple, dans Luc 4, 18, dans les Actes des Apôtres, je l'ai déjà cité, je crois, chapitre 10 et 38, qui nous rapportent au même fait, hein, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom même de Christ, Christos, hein, veut dire celui qui est oint, qui est oint. Ça a été beaucoup expliqué, en particulier par Tertullien. Il y a un beau livre, un bel écrit de Tertullien, qui s'appelle Sur le baptême. Bon. Et dans le chapitre 7, il parle de cela, et il fait un commentaire justement sur le nom du Christ. Ça, je parlais de christification tout à l'heure, mais oui, c'était pas une vaine expression de ma part. Il n'y a pas d'autre mot, si vous voulez. Christos, ça veut dire oint, et oint, ça veut dire Christos. Le Christ, c'est lui qui est oint par le Seigneur et son onction, et on la connaît justement par l'Évangile. En sachant que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il est clair pour nous, selon la foi orthodoxe, il est clair que, comment dire, l'onction du Christ, elle est atemporelle. Alors elle est temporelle le jour du Jourdain, parce qu'il y a une manifestation de cela aux hommes, et que lui, en tant qu'homme, reçoit effectivement cette onction, qui le désigne comme Messie, comme Christ aux yeux du peuple de Dieu, mais il n'empêche que, simultanément, nous confessons donc une onction atemporelle du Fils par l'Esprit du Père. Mais ça, c'est donc sur le plan, c'est pas sur le plan de l'économie, justement, c'est sur le plan de ce qu'on appelle la théologie, c'est-à-dire le plan absolu de la divinité. Alors voici un texte de Saint Cyrille d'Alexandrie qui exprime ça, justement, c'est dans le Catéchèse mystagogique, hein, livre 3, chapitre 1, dans les sources chrétiennes, numéro 126, si vous les retrouvez, Saint Cyrille dit, entre guillemets, pour lui, c'est-à-dire quand le salut du Christ, quand il s'est vu baigné dans le fleuve Jourdain, il remonta de celui-ci, et la venue substantielle de l'Esprit Saint sur lui se produisit, le semblable se reposant sur le semblable. Et pour vous, semblablement, une fois remonté de la piscine des saintes eaux, s'est fait la chrismation, l'image exacte de celle dont fut chrismé le Christ. Fin de citation. Alors, donc, le Christ reçoit l'Esprit Saint en tant qu'homme pour que tous les hommes puissent par la suite le recevoir et bénéficier des effets qu'il reçoit lui-même avec humilité, et il le reçoit de manière visible pour que les incroyants eux-mêmes perçoivent cet événement, et comme vous savez parfaitement, le Père donc fait entendre un message audible, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Alors ici d'ailleurs on pourrait interpréter l'expression qui a toute ma faveur comme se rapportant au don du Saint-Esprit. Là, cette faveur du Père, ce n'est pas un sentiment, on traduit par la bienveillance, Evdokia. Mais l'Evdokia du Père, c'est peut-être justement un nom, bon, c'était un peu une suggestion de ma part, je pense que c'est peut-être un nom justement de la, comment dire, de la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que cette bienveillance du Père, sinon justement le repos de l'Esprit sur le Fils, ou la descente de l'Esprit sur le Fils, descente pré-éternelle, atemporelle, comme je le disais à l'instant, et en même temps descente temporelle, historique, dans ce jour-là, au bord du Jourdain. Alors, il est clair aussi que la chrismation se fonde, telle que nous la pratiquons dans l'Église depuis 2000 ans, elle se fonde également sur la promesse que le Christ a faite à ses disciples de leur envoyer l'Esprit Saint. Hein, c'est donc d'une certaine façon, quand nous célébrons la chrismation, nous attestons la fidélité du Christ à ses propres paroles et à sa promesse. Vous connaissez les passages dans l'Évangile dans lesquels il est question de cette promesse de l'Esprit. C'est Jean 14, versets 16-17, Jean 15, verset 26, Luc 24, verset 49, et dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Et donc, lui-même, si vous voulez, le Christ a d'une certaine façon tenu lui-même sa propre promesse, puisqu'il a insufflé l'Esprit sur ses apôtres quand il leur est apparu, vous savez très bien, après la résurrection, ce qui est rappelé dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 22. Voilà, et puis donc, bien entendu, l'Esprit de Pentecôte, dans l'Esprit de Pentecôte, c'est par excellence l'accomplissement de cette promesse du Christ, c'est l'Esprit promis qui descend à ce moment-là. Donc ça, c'est assez important parce que ça montre que le lien entre le baptême et la chrismation, il est lié aussi au lien des hypostases divines, comme je vous l'ai dit, mais il est lié d'une certaine façon au ministère propre du Fils. Le Fils est vraiment dans son ministère de Verbe incarné, de Dieu homme. Il a un caractère propre, c'est qu'il est le prometteur, si je peux dire, il est le prophète de l'Esprit. Je crois que c'est Clément d'Alexandrie qui dit ça. Il dit que le Verbe est le prophète de l'Esprit, c'est-à-dire qu'il l'annonce, mais non seulement il l'annonce, mais il le promet, et non seulement il le promet, mais il le donne. Alors vous savez très bien que la foi orthodoxe ne pense pas que le Christ soit, ou le Fils soit la source de l'Esprit, bien entendu, ce n'est pas ça, mais qu'il le donne, ça oui. Donc il est donateur de l'Esprit, il est le prophète de l'Esprit, et il est le prometteur, je ne sais pas comment dire, de l'Esprit, et il le fait. Ce qu'il a promis, il le fait. Donc c'est extrêmement important qu'on va célébrer la chrismation, en fait, on va se réjouir, hein. On va se réjouir de ce que la promesse du Christ s'accomplit à ce moment-là pour telle personne. Alors, c'est pour ça que aussi, certains écrivains, certains de nos théologiens disent que le baptême correspond à la Pâque personnelle du baptisé par participation à la mort et à la résurrection du Christ, et que la chrismation correspond à sa Pentecôte, une sorte de Pentecôte personnelle. Bon, je veux bien, je fais un petit peu attention à cela, parce que, comment dire, il n'y a qu'une Pâque, il n'y a qu'une Pentecôte. Donc c'est ce qu'on peut dire, c'est que le baptême, c'est l'intégration de la personne à la Pâque du Christ, et que la chrismation, c'est l'intégration de la personne à la naissance unique et définitive et irréversible de l'Esprit. Là aussi, il ne faut pas faire attention, quand on présente les thèmes théologiques, il ne faut pas se laisser aller à des morcellements. C'est comme le pluriel, par exemple, on ne doit pas dire des baptêmes, ça ne veut rien dire. Des liturgies, ça ne veut rien dire. Des chrismations, ce ne sont pas des mots employés au pluriel, ça ne veut rien dire. Vous voyez, c'est le mystère du saint et unique baptême, c'est le mystère de la sainte et unique onction qui s'accomplit pour la personne un tel, pour le bébé un tel ou l'adulte un tel. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis ? Alors, c'est pour dire que, donc, si vous voulez, dans l'écriture, et très immédiatement, et c'est dans les écrits des pères, il est question beaucoup de cela, beaucoup de pères de l'Église, ce sont des commentateurs de cela, enfin, surtout, Saint Cyril d'Alexandrie, donc, dans ses catéchèses mystagogiques, a donc beaucoup expliqué ces thèmes-là, mais également, par exemple, Hippolyte de Rome, dans son livre qui s'appelle La Tradition apostolique, donc vous pouvez lire, qui est le numéro 11 bis des sources chrétiennes, donc vous pouvez lire Tertullien sur le baptême, dont je vous ai déjà parlé un instant, c'est Tertullien qui dit: sorti de la piscine baptismale, nous sommes loin de l'onction bénie. Donc vous voyez, dans une phrase comme ça, il montre bien l'union des deux. Et puis également, vous retrouverez d'autres écrivains, par exemple Théodore de Mopsuès dans ses homélies catéchétiques, et puis à côté de Saint Cyril d'Alexandrie, à ne pas confondre, Saint Cyril de Jérusalem, hein, donc qui est son homonyme, dans un ouvrage qui s'appelle les catéchèses mystagogiques. Donc il y a les catéchèses mystagogiques de Cyril de Jérusalem et les catéchèses mystagogiques de Cyril d'Alexandrie. Donc, et bon, tous ces pères, si vous voulez, ont une attitude commune par rapport à l'onction chrismale et dans le rapport de celle-ci avec le baptême. Alors, oui, après ça, j'avais noté comme thème d'approche l'événement de sanctification, l'onction. Mais ça, je voulais déjà d'en parler. Donc, je vous disais il y a quelques instants, mais je le redis avec force, que la chrismation n'est pas une cérémonie. Une cérémonie, n'est pas un rite. Alors ça, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que vous l'avez déjà remarqué, surtout à la suite de certains textes du père Alexandre Schmemann, mais je fais extrêmement attention de ne jamais laisser penser que nos sacrements soient des actions symboliques. Je suis désolé. C'est pas une action symbolique. C'est un événement réel. Une advenue de l'Esprit-Saint, une parousie du Christ par l'Esprit-Saint, un feu dévorant qui se répand dans notre vie, et cet événement incompréhensible, mystérieux dans le sens sacramentel, mais dans le sens aussi de incompréhensible. Pourquoi est-ce que les sacrements sont appelés mystères? C'est parce qu'ils sont irréductible à nos concepts ils nous dépassent complètement, vous voyez, ils sont comme je reviens toujours à cet événement magnifique, je pense au saint et grand prophète Moïse quand il était devant le buisson ardent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense? C'était incompréhensible, irréductible à son expérience humaine, à sa connaissance, à ce qu'il avait pu apprendre sur les Égyptiens quand il avait étudié, irréductible. Donc, le caractère irréductible du sacrement, et nous le respectons, le sacrement est inépuisable, même on peut faire tous les cours qu'on veut, on peut écrire tous les livres qu'on veut sur les sacrements, le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, etc. Aucun livre, aucune bibliothèque, aucune collection de sources chrétiennes ou autres n'épuisera épuisera, si vous voulez, la richesse insondable et donc inépuisable et irréductible et inconceptualisable, hein, quelque part, de l'événement. Mais justement, ça c'est assez important, c'est comme cet événement n'est pas réductible à un discours conceptuel, il ne peut pas être remplacé par une explication, par un discours, par une parole humaine. Il est donc, cet événement, il est exprimé, il est dessiné, il est, je dirais, iconographié, il est exprimé à travers des formes qui sont relatives, c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas parfaites, ce sont des formes contingentes, mais à peu près accessibles au commun des mortels, et donc des formes qu'on va appeler des symboles. C'est-à-dire que voilà, je voudrais dire tout ça, peut-être que le baptême n'est pas une action symbolique, hein. C'est pas symbolique le baptême, c'est réel, mais pour exprimer ce réel, on utilise des symboles, des éléments, etc. Mais par exemple, l'eau, c'est à peine un symbole. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un symbole? C'est pas un symbole, c'est le Jourdain. C'est la réalité du Jourdain. L'eau qui vient d'être sanctifiée au début, consacrée, sanctifiée, purifiée, consacrée et sanctifiée au début du baptême, cette eau-là, elle est transfigurée en eau du Jourdain. Donc il n'y a pas de symbole là-dedans. Il n'y a que la réalité. Il n'y a que la réalité. De l'événement divino-humain qui s'accomplit, vous voyez. C'est comme, on revient, on pense à l'Eucharistie, ben l'Eucharistie, c'est, le pain et le vin ne sont pas des symboles, vous voyez, c'est ce que ça veut dire, ça. Ce sont pas des symboles. Le pain et le vin sont effectivement et réellement transfigurés dans le corps et le sang du Christ. Le Christ n'a pas dit ceci, ben écoutez, on va prendre du pain, ça représentera telle chose. Il n'a pas parlé de ça, il a dit ceci est. C'est moi, hein, il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est tout. Mangez, buvez en mémoire de moi, etc. Donc le Christ a été vraiment très clair à ce sujet-là. Le Christ a affirmé la réalité. C'est lui qui affirme la réalité sacramentelle de ce qui est, se passe dans l'Église. Le Christ a été vraiment très très loin de tout le comportement symbolique, allégorique. Oui, c'était pas du tout sa méthode, c'est pas du tout sa pédagogie. Le Christ n'utilise pas d'allégorie. Le Christ, il fait, il agit, il dit ce qu'il fait, et il nomme la réalité de ce qu'il a fait. Je le dis parce que dans le dialogue avec certains chrétiens non orthodoxes, nous avons des difficultés. Certains, si vous voulez, considèrent que les sacrements, ce sont en fond simplement des actions symboliques, ce sont des symboles, mais au sens très petit du mot, vous voyez. C'est une sorte de figuration. On figure quelque chose qui a eu lieu pour le rappeler. Alors, mais ce n'est pas du tout ça que nous pensons. Nous pensons qu'il y a ici une réalité, et que cette réalité, on essaie de la dire, de la parler, de la. Pas de l'expliquer, mais de la nommer, de la transmettre aussi, de l'attester, oui, de l'attester, à travers des signes, à travers des paroles, à travers des textes, à travers des éléments du monde. Mais c'est un événement extraordinaire. Et si notre façon de participer au sacrement de l'Église serait tout à fait différente si nous avions cette conscience de ce qui s'y passe. Alors que très souvent, on voit bien que dans les paroisses, quand les fidèles viennent demander le baptême de leur enfant, bon, ben, ce sont des actes rituels, du comportement religieux, socio-religieux d'ailleurs, bon, mais je ne sais pas si tout le monde est bien conscient qu'il se passe en réalité quelque chose. Le caractère réel. Réel. Là, je pense qu'il faut se battre un peu pour ça, mais ceci dépend aussi de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Je le dirai tout à l'heure à propos des dons du Saint-Esprit qui sont conférés par la chrismation. Eh bien, il y a en particulier le don de voir l'Esprit présent, de voir le Christ présent en tout, de voir de ses yeux transfigurés le corps et le sang du Christ dans le pain et le vin, offert sur l'autel. C'est également l'Esprit Saint qui nous donne des yeux pour connaître cette réalité et la connaître pas d'une manière symbolique justement, mais de la connaître en la voyant telle qu'elle est. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de voir la présence du Christ telle qu'il est, le baptême tel qu'il est et la chrismation telle qu'elle est. Donc c'est un grand enjeu. Donc c'est pour ça que je disais donc l'événement. L'onction est un événement de sanctification. Je parlais parce que tout à l'heure, on parlait de la consécration, de la sanctification de l'eau, donc des éléments. Mais ici, il s'agit de la consécration et de la sanctification de la personne humaine, du corps humain sur lequel on va revenir. Alors, ce qui est très important aussi pour notre thème, je pense que nous avons le temps de le faire, c'est de s'arrêter quelques instants sur la nature même du Saint-Crème. Qu'est-ce que c'est que ce Saint-Crème? Alors, c'est pas une huile qu'on consacre à ce moment-là. Encore, alors, ça s'est fait autrefois, il paraît qu'il y a eu des époques de l'Église où la consécration du Saint-Crème se faisait juste avant l'onction. Mais en fait, ceci a été a disparu de la pratique chrétienne et ce qui s'est imposé, disons, dans l'Église, c'est le fait que l'huile appelée Saint-Crème, l'huile chrismale, soit en fait concoctée, consacrée et sanctifiée par les évêques d'une même Église souveraine. Et donc, il y a un caractère intéressant, c'est qu'en fait, cette consécration du Saint-Crème se fait pendant la liturgie, et donc on a bien vu que le Saint-Crème donc bénéficie d'une véritable épiclèse. C'est Saint Cyril de Jérusalem, qui explique ça. Il dit que le Saint-Crème n'est plus, en raison de l'épiclèse, une huile pure et simple, mais don du Christ devenu par la présence de l'Esprit Saint efficace de sa divinité. Et le même Cyril d'Alexandrie fait la relation entre le Saint-Crème et l'Eucharistie en disant « De même que le pain de l'Eucharistie après l'épiclèse du Saint-Esprit n'est plus du simple pain, mais corps du Christ. » Donc vous voyez que ce que les pères anciens pensaient de l'huile du Saint-Crème, c'est extrêmement sérieux, extrêmement profond. Voilà donc une huile qui est donc transfigurée, transformée par la descente du Saint-Esprit. Au cours de l'étude de Saint-Basile que le Jeudi Saint, dans chaque église autocéphale, par le patriarche et par les autres évêques, ce Saint-Crème est fabriqué. Et il est ensuite distribué aux évêques qui le remettent à leur tour, comme vous le savez très bien, aux prêtres de leur diocèse. Et ce qui veut dire qu'il y a aussi un lien qui est manifesté et garanti entre les prêtres et leurs évêques. C'est le lien canonique, comme est, vous savez, la présence de l'antimension sur l'autel, qui est un corporal aussi, un linge, qui est signé par l'évêque de Cézanne et qui atteste la validité canonique des sacrements et de l'Eucharistie en particulier. Donc le Saint-Crème a une valeur canonique très très importante. Un prêtre qui ne recevrait pas le Saint-Crème de son évêque ne peut plus rien faire. Non seulement il ne peut plus faire, à la limite il peut faire des baptêmes, il ne peut plus faire de chrismation parce qu'il n'a pas l'huile, mais en plus il manque de toute façon le signe tangible d'un lien canonique avec quelqu'un. Il y a un exemple intéressant à ce sujet-là, c'est l'exemple de l'évêque Jean Kowalewski, Jean de Saint-Denis. À une époque de sa vie, il s'est trouvé dans une situation difficile après le décès, le trépas, la dormition de Saint Jean Maximo Jubit, Saint Jean de San Francisco. Et donc l'évêque Jean, à ce moment-là, pour se trouver dans une situation difficile, avait été reçu par le patriarche Justinien de Roumanie. Or, ce qu'a fait le patriarche Justinien de Roumanie, c'est pas seulement de le recevoir chez lui, ce qui est déjà pas mal, et on voit sur une photographie l'évêque Jean à la droite du patriarche Justinien, mais en plus, le patriarche Justinien lui a donné justement le Saint-Crème. Ça a été que c'est un acte extrêmement important. Le parfum lusignan, en faisant cela, donc attestait la communion canonique de cet évêque en difficulté avec l'ensemble de l'Église. Voilà. Alors donc, ceux que ça intéresse, ils peuvent trouver. Je vais vous le lire quand même parce que la prière est très belle. Vous pouvez trouver dans le grand décologe qui a été édité à Parme. Vous savez. Traduit par Père Denis Guillaume, qui est publié maintenant à Namur. C'est à Namur qu'il faut commander ce livre. Je crois que c'était épuisé, ce livre, et je crois qu'on le trouve à nouveau. En tout cas, on peut le trouver en copie, éventuellement. Et dans le Grand Décologe, par page 736, vous allez trouver le texte, le texte de ces bénédictions, et dont je vous lis une partie. C'est quand même intéressant, une partie qui dit notamment cela. Seigneur de miséricorde et Père des Lumières, de qui nous viennent tout don excellent et toute grâce parfaite, envoie sur ce miron, sur ce mire, ton Esprit Saint, faisant un crème royal. Un crème spirituel pour la sauvegarde de la vie, pour la sanctification des âmes et des corps, une huile d'allégresse, celle qui, préfigurée dans l'ancienne loi, a brillé dans le Nouveau Testament, celle de l'onction des prêtres et des grands prêtres, des prophètes et des rois, celle que tu as répandue sur tes saints apôtres et sur tous ceux qui, par leurs mains et celles des évêques et des prêtres à leur suite, ont reçu juste à ce jour le bain de la nouvelle naissance. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la descente de ton Esprit Saint et digne d'adoration, faisant un enduit d'immortalité, une marque de perfection, imprimant en ceux qui reçoivent le baptême le droit de porter ton nom divin, celui de ton Fils unique et de ton Saint-Esprit, afin de devenir à tes yeux tes proches, tes familiers, tes concitoyens, tes serviteurs et servantes, sanctifiés d'âme et de corps, éloigné de tout mal, affranchi de tout péché, pour avoir endossé le vêtement de ta gloire immaculée, afin d'être reconnu à ce sacrement par les saints anges et archanges et par toutes les célestes puissances, et d'inspirer l'effroi aux démons impurs, aux esprits du mal, devenant ainsi un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, marquée par le sceau de ton saint mystère que voici, et portant dans leur cœur ton Christ, pour qu'il y habite avec toi le Dieu et Père en l'Esprit Saint. Oui, ce prière est magnifique. On va en retrouver des éléments qui sont magnifiques tout de même. Vous voyez, là, je vais revenir un petit peu sur les éléments. D'abord, donc, ce saint crème, donc vous le voyez, c'est une je peux vous dire qu'il est fabriqué par toutes sortes d'éléments extraordinaires. Il doit y avoir 50 éléments, 50 plantes qui entrent dans sa composition. C'est très intéressant le saint crème. Et je regarde ça dans mon livre. Oui, il est caractérisé par son parfum. Par son parfum qui est assimilé au parfum du Christ lui-même, comme le dit, parce qu'il se réfère à un texte de saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 15, « Nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. » Donc le parfum de l'onction du Saint-Crème signifie en fait la présence du Christ, hein. Ah, c'est l'odeur du Christ, la bonne odeur du Christ. Denis l'Areopagite dit dans la hiérarchie ecclésiastique au chapitre 4, les saintes huiles sont constituées par un mélange de substances odorantes et elles possèdent par conséquent une foule de propriétés aromatiques qui embaument ceux qui les sentent selon la quantité d'odeur qui a pu venir jusqu'à eux dans leur participation. Nous apprenons ainsi que le parfum suressentiel du trait théarchique Jésus répand ses dons intelligibles sur nos puissances intellectives. Donc le parfum, vous voyez, c'est le rayonnement même de la grâce du Saint-Esprit, et c'est le rayonnement de la grâce du Christ lui-même en personne. Je regarde s'il y a d'autres éléments à vous donner. Alors, ensuite, oui, ils disent ça, que les cinq canons autorisent la consécration du Saint-Crème par chaque évêque, mais qu'en fait, c'est l'ensemble des évêques d'une ville hein, qui le fait. Je cherchais l'endroit où il y avait, je croyais avoir la liste des plantes employées, mais je ne les retrouve pas. Pardon. Je crois que c'est donné dans le Grand Oecologe. Si vous pouvez regarder, page 736, il me semble, 736-738, je crois que vous trouverez la liste des plantes qui sont utilisés, qui entrent en composition. Voilà, donc je suis dans ces... Il faut se reporter donc, au texte complet donné par Père Denis et Guillaume. Donc cette huile, oui, qu'on appelle le Saint-Crème, et non pas la Sainte-Crème, comme disait quelqu'un, qui avait mal compris. Cette huile, donc c'est ça qui va être, c'est ça le sacrement de l'onction. Parce que cette huile est consacrée, et pas seulement consacrée, mais sanctifiée, justement, c'est-à-dire assimilée au Christ, et assimilée au Saint-Esprit, comme le corps et le sang sont l'assimilation du pain et du vin, hein, le rapport avec l'Eucharistie a été souligné par d'autres, pas seulement, je vous ai dit ça, mais par exemple, également par Denis l'Areopagite dans la hiérarchie ecclésiastique, le chapitre 4, hein, les pères ont eu cette conscience que le Saint-Crème était aussi fort comme réalité divino-humaine que le pain et le vin eucharistique. Vous voyez, c'est assez étonnant quand même. Oui. Donc cette matière déifiée, comme le pain eucharistique est une matière déifiée, la coupe eucharistique est une matière déifiée, cette matière déifiée du Saint-Crème est apposé avec le signe de la croix sur le baptisé. Mais j'insiste sur toutes ce que je peux arriver à trouver comme paramètre important, parce que qu'est-ce que nous voyons dans la pratique dans nos paroisses, et nous les prêtres, je dis ça pour mes collègues, qu'est-ce que nous faisons, c'est pas pour être négatif, mais c'est plutôt pour renouveler l'intérêt pour le sujet. Qu'est-ce que nous voyons souvent? Nous voyons des baptêmes qui ont lieu dans nos paroisses, quelquefois en grand nombre, quelquefois se succédant, 2, 3, 4, 5 baptêmes, quelquefois à la suite, un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, en l'absence de la communauté paroissiale, enfin des éléments qui sont déjà un petit peu attristants. Et on voit le baptême, alors bien sûr, toute la partie exorcisme, tout ça, bon, c'est fait un petit peu rapidement à l'entrée de l'église, quelquefois un petit peu mieux. Et ensuite, bon, ben, le clou, le moment le plus important, le moment spectaculaire, ça va être effectivement l'immersion. Et puis, on va sortir les beaux habits, les vêtements blancs, les beaux cierges, etc. Donc, ça devient l'essentiel. Et tout de suite après, il se passe quelque chose, une bonne partie des personnes n'ont pas bien conscience, parce que ça se fait souvent dans un certain bruit, c'est un remue-ménage. Éventuellement, les personnes qui sont là parlent entre elles. Enfin, une espèce de désordre qui s'installe après l'immersion, pendant qu'on habille l'enfant, le bébé. Et l'onction chrismale est faite, mais c'est très rapide. Personne ne s'en aperçoit. On comprend pas très bien ce qui se passe, ce qui est dit. Et puis voilà, on passe à la suite. La suite étant quelque chose d'extrêmement important, qui est la procession autour du baptistère et de l'évangile. Mais donc, cette chrismation qui est le don du Saint-Esprit, qui est l'onction avec une matière déifiée et sanctifiée, passe presque inaperçue est accompli souvent vraiment par la va-vite. Je ne voudrais pas être insultant pour mes collègues, mais je pense que surtout que même dans la façon de célébrer, ce n'est pas toujours fait avec toute la majesté et tout le temps. Je crois qu'à ce moment-là, il faut vraiment, comme ce sacrement est minuscule au fond par rapport au baptême, comme on dit, est microscopique, il tient très très peu d'éléments, je pense qu'il faut s'arrêter et attendre vraiment que tout le monde soit attentif, que tout le monde soit présent. Attendre. On attend que tout le monde soit présent. On n'est pas pressé. On attend. Et la prière qui va être dite doit être entendue par tout le monde. Parce que la prière qui est dite avant la collation du Saint-Crème, cette prière justement dit aussi le sens de ce qu'on fait. Hein, la prière que vous avez lue tout à l'heure, c'est la prière qui est dite par les évêques quand ils consacrent le Saint-Crème, le Jeudi Saint. Ça, les fidèles ne la connaissent pas, les pauvres. Mais la prière qui est dite avant l'onction elle-même, juste après le baptême, ça, les fidèles peuvent l'entendre. Quelle est cette prière? Vous la connaissez normalement. Que je la retrouve, pardon. Pardon, je voulais vous la lire. Je la prends dans le dos et l'esprit du Père Schlemann, page 127. Alors, je l'ai également dans le livre de de Jean-Claude Larcher. Voilà le texte, hein, je vous le redis. Vous l'avez certainement entendu dans les églises quand même, et si vous êtes prêtre vous-même, vous l'avez quand même lu à haute voix plusieurs fois. « Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, source de tout bien, soleil de justice, qui par la manifestation de ton Fils unique et notre Dieu a fait briller la lumière du salut sur ceux qui étaient dans les ténèbres. Malgré notre indignité, tu nous accordes la bienheureuse purification dans l'eau sainte et la divine sanctification dans l'onction vivifiante. » Donc vous voyez, en passant, que la distinction entre purification et sanctification ici. « Toi qui as bien voulu faire renaître par l'eau et par l'esprit ton serviteur ou ta servante nouvellement illuminée et lui accorder la rémission de ses péchés volontaires et involontaires, avec cette phrase-là désigne en fait un baptême qui est fait pour un adulte surtout. Hein. » Quand c'est fait pour un bébé, on dit la même formule, mais ça veut dire aussi que l'enfant, même innocent, même à la naissance, est un porteur de toutes les conséquences du péché héréditaire. Donc tu lui as accordé la rémission de ses péchés volontaires et involontaires. Toi-même, Seigneur, plein de tendresse et roi de tous, accorde-lui également le sceau du don de ton Esprit très saint, tout puissant et digne d'adoration, ainsi que la communion au saint corps et au précieux sang de ton Christ. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans la prière, c'est qu'elle unit nettement les trois éléments, baptême, onction et eucharistie. Garde-le ou garde-la dans ta sainteté, fortifie-le ou fortifie-la dans la vraie foi, préserve-le du malin et de toutes ses œuvres, inspire-lui envers toi une crainte salutaire et conserve son âme dans la justice et la pureté, afin qu'il te soit agréable en toute parole et action, et devienne fils ou fille et héritier ou héritière de ton céleste royaume. Car tu es notre Dieu, le Dieu qui fait miséricorde et qui sauve, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Et on répond Amen. Le peuple répond Amen, bien entendu, à cette prière. Alors, dans cette prière, vous avez remarqué, donc effectivement, il y a quand même le thème de la purification et de la sanctification, qui sont deux actions différentes. Hein. Ensuite, il y a bien l'idée donc de renaissance, du passage de la mort à la vie par l'immersion. Et puis, après ça, donc, il y a bien la promesse de communion au Saint-Corps et au précieux sang du Christ. Et après ça, il y a un peu une énumération des dons. Je vais y revenir juste après. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Garde-le dans ta sainteté. C'est le premier élément de la prière qui arrive. L'être humain est sanctifié par le Saint-Crème, et donc on demande à Dieu de le garder dans cette sainteté, de fortifier dans la vraie foi. Donc le deuxième charisme, premier charisme, c'est la sainteté. Le deuxième charisme, c'est la confession de la foi. Préserve-le du malin et de ses œuvres. Le troisième charisme, c'est la force dans le combat spirituel. Inspire-lui envers toi une crainte salutaire. Donc c'est le troisième, le charisme suivant, c'est la crainte de Dieu. Conserve son âme dans la justice et la pureté, et ce charisme de la fidélité, afin qu'il te soit agréable en toute parole et action. Ça, c'est le charisme de la familiarité avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, la familiarité avec Dieu, et devienne fils et héritier de ton céleste royaume. Ça, c'est le charisme de l'affiliation au Père céleste. Donc, vous voyez, la prière elle-même dit beaucoup, elle dit beaucoup de ce qu'on attend de cette onction. Alors ensuite, vous savez très bien, mais c'est important de le rappeler. Donc l'onction est faite sur le front, les yeux, les narines, les lèvres, les oreilles, la poitrine, les mains, les pieds. Hein, donc j'en profite pour souligner donc que c'est un sacrement qui, du point de vue anthropologique, souligne l'unité du composé humain. C'est-à-dire que le sacrement de la chrismation confesse la même réalité que l'immersion, de même que la triple immersion est une immersion de tout l'homme, toutes les personnes humaines mènent dans l'eau, de même l'onction du Saint-Crème implique tous les membres du corps humain. Ce qui veut dire que et l'immersion et l'onction chrismale confessent l'unité anthropologique. Et ça, c'est très 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 important. La théologie de l'Église est claire ici. L'anthropologie est une anthropologie, on va dire, holistique. C'est-à-dire que c'est le tohol en grec, c'est la totalité de l'être humain et qui est impliqué dans ce processus de consécration et de sanctification. Donc, ceci est extrêmement important parce que, si vous voulez, à part ça, dans la vie quotidienne, nos pères spirituels en particulier nous rappelleront cela. Nous rappellerons que notre front est le siège de la réflexion, de la compréhension, de la faculté de se contrôler, de se maîtriser. Par l'onction sur le front, nous avons reçu quand même la capacité de gérer les mouvements de notre être, de notre corps. Nous avons la capacité de contrôler nos pensées. Ça, c'est important, ça, du point de vue spirituel. Vous savez que la gestion des pensées est un élément fondamental de l'ascétisme des pères, mais cette gestion des pensées, ce contrôle du mental, cette garde de l'esprit, la garde du cœur également, le choix des pensées que nous voulons accepter, ceci vient du fait, est rendu possible par le fait que justement l'onction a été faite sur notre front. Tous ces dons dont nous avons besoin pour être chrétiens, ils arrivent ici. Par exemple, l'onction sur les yeux et sur les oreilles, c'est évidemment très important parce que il ne s'agit pas seulement, si vous voulez, de la vision matérielle des choses, mais de la capacité de voir Dieu présent en toutes choses. L'onction sur les narines, bien sûr, ça se rapporte à l'odorat physique, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des sens spirituels et de percevoir spirituellement cette bonne odeur du Christ, c'est-à-dire d'avoir la perception olfactive de la présence invisible du Christ. Vous savez peut-être que c'est Origène qui un des premiers à développer la doctrine des sens spirituels. C'est très intéressant. C'est-à-dire que pour lui, les sens corporels que nous connaissons sont la partie émergée d'une sensorialité, pas une sensorialité spirituelle correspondante. Et donc l'être humain peut voir Dieu, peut entendre Dieu, peut goûter Dieu, peut sentir Dieu. Voilà, et donc bien entendu, l'onction sur les mains et sur les pieds, par exemple, donc, signifie la sanctification de l'action, le service du prochain, l'application des commandements. Mais donc les yeux, les oreilles, le front, les narines, les lèvres, la poitrine, les mains, les pieds, donc tout l'homme. Donc c'est... il y a une immersion dans l'eau et une onction dans l'huile. Et cette onction dans l'huile, ça correspond à une sorte d'immersion aussi. Hein. Donc c'est ça le baptême de l'esprit, si vous voulez, c'est être immergé, non seulement dans l'eau, mais dans l'esprit. Alors vous allez me dire, oui, mais le baptême d'eau est déjà un baptême d'esprit, bien sûr, bien entendu. Je ne vais pas vous refaire le cours, mais la prière de consécration et de sanctification de l'eau baptismale se fait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a très nettement une présence du Saint-Esprit et une épiclèse également sur l'eau baptismale. Donc l'Esprit Saint est présent dans le baptême, incontestablement. Hein, on ne peut pas découper en quelque sorte artificiellement l'œuvre du Christ et l'œuvre de l'Esprit. Mais si vous voulez, l'Esprit agit dans l'œuvre du Christ. Et symétriquement, le Christ agit dans l'œuvre de l'Esprit. Les deux hypostases du Verbe et de l'Esprit s'assistent mutuellement, se compénètrent mutuellement. C'est qu'on voit, c'est assez important, du point de vue théologique. Vous savez que quand on glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on dit que les personnes divines, les hypostases, sont dans ce qu'on appelle une péricorèse mutuelle. C'est-à-dire qu'elles sont l'une dans l'autre. Hein. Elles sont transparentes l'une à l'autre, elles se contiennent l'une l'autre, sans jamais s'identifier l'une à l'autre. Mais en fait, cette péricorèse des personnes divines se manifeste également sur le plan de l'économie, quand on voit comment l'Esprit est présent dans l'œuvre du Christ et comment le Christ est présent dans l'œuvre de l'Esprit. Voilà, donc là, je pense qu'il y a un élément qui est assez important et qui, là, justement, est un peu délicat, consiste dans les dons du Saint-Esprit. Ceci a été développé différemment par les uns et par les autres. Disons que d'une façon fondamentale, disons, les pères anciens interprètent l'expression « sceau » du don du Saint-Esprit comme la venue en l'être humain des énergies, de la grâce du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Et dire l'expression est intéressante parce qu'il y a trois mots, il y a le sceau, il y a le don, et il y a le Saint-Esprit lui-même. Donc le sceau n'est pas l'esprit. Le sceau c'est la marque. Et le don non plus n'est pas l'esprit. Il est le don du donateur, l'esprit est le donateur. Donc il y a ici un donateur appelé Esprit Saint, et bien les dons qu'il fait, ou le don qu'il fait, c'est employé au singulier quand même, et il y a la marque indélébile de ce don qui est apposé sur le corps humain. Donc ici, il y a bien un commentaire à faire. D'abord, la question du sceau, c'est ce qu'on appelle sphragis en grec, c'est un mot très ancien, très important, mais ce rite de la sphragis est un signe en fait de consécration, justement. On revient donc à ces thèmes qui me sont chers, consécration, sanctification, ça. Donc il y a eu purification par le baptême, il y a une purification par les exorcismes, et ici il y a consécration et sanctification, parce que le sceau qui marque la qualité du propriétaire. On scelle un acte juridique comme on le signe, on le scelle et on lui donne sa validité juridique, on atteste sa validité, on atteste son caractère définitif, et donc toute l'autorité, disons, juridique et canonique en l'occurrence, qui est exprimée par l'idée de sceau. Celui qui est scellé, eh bien, il ne peut pas, on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui a été scellé. Et ce qui est scellé appartient à celui dont vient le sceau, parce que le sceau, c'est le sceau de quelqu'un qui a un emblème, en l'occurrence, ici, c'est la croix, la signature du Christ, on peut dire, ou le sceau du Christ, il est en forme de croix, ce qui veut dire que par ce sceau, par ce sceau, il y a un scellement. Le sceau, c'est ce qui scelle. Et qu'est-ce qui est scellé? C'est justement ce qui avait été opéré par le baptême précédemment, c'est-à-dire la consécration et la sanctification par identification au Christ. Donc ceci est scellé. Donc il est assez important. L'Esprit Saint est toujours dans les sacrements celui qui, on dit, qui accomplit, qui remplit tout, mais on peut dire qui termine tout, qui achève tout. Une fois que c'est scellé, c'est fini. Vous voyez, on n'a plus rien à ajouter. Mais ça, c'est le sceau, c'est la marque visible, matérielle, juridique, canonique, qui fait que c'est comme l'inscription sur un registre. Vous voyez, à la limite, pourquoi est-ce qu'on inscrit les gens sur des registres baptismaux? C'était pas nécessaire, ça n'ajoute rien. Ça n'ajoute rien au caractère juridique et canonique de leur chrétienté, leur christianité, je ne sais pas quoi, puisque ceci a déjà été attesté par le sceau. Mais bon, c'est vrai que l'inscription dans le registre baptismal va avec une signature aussi, donc c'est du même domaine, le domaine du sceau, du scellement. Et puis après ça, on a l'autre mot qui est le don. Alors le mot don est un mot extrêmement important, parce que c'est vrai que le don se rapporte principalement à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie, qui nous donne le Christ, c'est le donateur, c'est vraiment... mais donc le don est ici distinct du donateur. Alors, quel est ce don? Pourquoi est-ce qu'il est au singulier? Alors certains ont dit, ah mais c'est au singulier parce qu'en fait il s'agit du Saint-Esprit lui-même, que c'est le Saint-Esprit en personne qui viendrait chez le baptisé. Ceci n'est pas l'opinion des pères. Je vais vous lire tout de suite des textes de Saint Grégoire Palamas, par exemple, qui apportent une nuance importante. Donc les pères anciens n'ont pas pensé que ce singulier, le don du Saint-Esprit, désigne le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'ils ont remarqué que dans la phrase, c'est le don du Saint-Esprit, il y a des compléments, grammaticalement compléments de mot Saint-Esprit, donc il est distinct. Mais le don, c'est l'action par laquelle le Saint-Esprit se donne. Et comment est-ce qu'il se donne? Il se donne par sa grâce, il se donne par ses énergies, il se donne par ses dons multiples, comme le dit l'apôtre Paul. Mais lui, en tant que personne, en tant qu'hypostase de l'Esprit Saint, il demeure transcendant et il ne s'incarne pas. Vous voyez, il ne faut pas faire de confusion entre le Verbe qui se fait homme, le Verbe qui s'incorpore, le Verbe qui se fait chair, qui se fait homme, qui s'incarne, et l'Esprit. L'Esprit Saint ne s'est pas incarné. L'Esprit Saint ne s'est pas fait homme. L'Esprit Saint ne s'est pas fait chair. Mais il infuse ses dons totalement et en plénitude dans la chair, dans l'humanité de celui qui est déjà acquis par le Christ suite au baptême. Donc on fera cette distinction-là. Donc l'opinion suivant laquelle le don serait le Saint-Esprit lui-même, c'est une opinion personnelle, disons, qu'on peut avoir. Je crois que c'est l'opinion du Père Schmemann, je crois en l'occurrence, mais ce n'est pas l'enseignement général de l'Église. Alors justement, les Saints-Pères, je vous lis les textes là-dessus, c'est assez intéressant. C'est surtout Saint Grégoire Palamas qui a fait cette distinction-là, et pas uniquement. Vous trouveriez cette précision, c'est-à-dire la distinction entre la personne du Saint-Esprit et ses dons, le fait que donc la chrismation c'est la réception des énergies et des dons de l'Esprit et non la réception de son hypostase. Cette distinction c'est vraiment important théologiquement, vous voyez, comme savoir qu'est-ce qu'on fait. Pas confondre l'économie de l'esprit avec l'économie du Verbe, c'est ça le point du problème. Donc cette distinction, vous la trouvez formulée chez Saint Basile, dans le traité du Saint-Esprit, au livre 19, et dans Saint Jean Chrysostome, le commentaire sur les psaumes, le livre 44, et surtout donc dans Saint Grégoire Palamas qui commente Saint Jean Chrysostome. Il dit, bon, est-ce l'essence elle-même et l'hypostase, ou bien la grâce et l'énergie? Voilà poser la question dans la chrismation. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit l'hypostase de l'esprit, ou est-ce qu'on reçoit la grâce et l'énergie de l'esprit? Afin de ne pas nous épuiser en recherche, continue Saint Grégoire Palamas, abritons-nous derrière ce théologien en or lui-même, c'est-à-dire Saint Jean Chrysostome, comme interprète de ce que nous cherchons. Car celui-ci dit dans son discours sur l'esprit, le don est envoyé, l'esprit n'est pas missionné. Donc Saint Jean Chrysostome lui-même, vous voyez, fait cette distinction entre don et donateur, même si le don est employé au singulier, parce que l'argument de Père Alexandre, c'est que comme c'est employé au singulier, ça désigne le Saint-Esprit lui-même. Et je pense qu'on ne peut pas lui donner vraiment raison, parce qu'il soutient ce point de vue de manière isolée, et nous, notre fonction, si vous voulez, plutôt de rapporter la tradition générale des pères de l'Église et le consensus des pères, qui est quand même la position stable de la conscience ecclésiale. Voilà, donc, continue Saint-Jean. Saint Grégoire Palamas, ayant entendu Jean le précurseur, le baptiste, dire au sujet du Christ que ce n'est pas avec mesure qu'il a reçu du Père l'Esprit, mais qu'il lui a tout donné dans sa main, il explique également ses paroles. Il dit ici, dit Saint Grégoire Palamas, il dit ici que l'énergie est esprit, car c'est elle ici qui est partagée. Nous tous, en effet, nous recevons l'énergie de l'Esprit avec mesure, mais celui-ci, c'est-à-dire le Christ, reçoit intégralement toute l'énergie. Je ne sais pas si vous suivez bien le texte. Saint Grégoire Palamas, s'appuyant sur Saint Jean Chrysostome, fait une distinction importante entre le Christ et nous. C'est-à-dire, quelque saint que nous soyons, que vous soyez, si vous voulez, nous, les baptisés, nous recevons les dons du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit. L'Esprit nous est... nous recevons l'énergie de l'esprit avec mesure, c'est-à-dire mesurée à nous. Et même, je crois même que Saint Cyrille de Jérusalem dit que nous le recevons selon notre foi. Donc l'esprit nous est mesuré. Nous recevons l'esprit selon nos forces, selon notre foi, selon notre préparation. Alors que le Christ, lui, reçoit l'Esprit Saint intégralement. Intégralement, voilà, donc c'est ça la différence extrême, vous voyez. Il a tout donné au Fils, et à nous, il donne les énergies, donc la distinction existe. Donc l'hypostase, continue Saint Grégoire Palamas, l'hypostase du Saint-Esprit n'est pas donnée ni reçue par qui que ce soit, mais seulement la grâce divine et l'énergie. Et il commente après ça un passage de Saint Cyrille d'Alexandrie en disant que dans le passage en question, lorsqu'il dit que l'Esprit nous est donné du Père et du Fils, Saint Cyrille entend qu'il s'agit non pas de la nature ni de l'hypostase de l'Esprit, mais de la grâce et de l'énergie naturelle. Nous en trouvons confirmation dans l'Écriture lorsque Saint Jean-Baptiste dit que ce n'est pas avec mesure que l'Esprit est donné du Père au Fils. Et c'est le même passage, hein. À propos de l'épisode où le Christ souffle sur les apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint », il note, toujours Saint Grégoire Palamas, il est clair que c'est comme une énergie partielle de l'Esprit qu'il a donnée par le souffle, non sa nature ou son hypostase. La nature et l'hypostase de l'Esprit divin sont absolument indivisibles. Donc, vous voyez ce qu'on veut dire, c'est que l'Esprit Saint se monnaie chez les personnes par ses dons, par sa grâce, par ses énergies, mais lui-même il ne peut pas être découpé en autant de personnes qu'il leur est donné. Voilà, chaque fois il revient là-dessus, Saint Grégoire Palamas, ce n'est pas l'hypostase du Saint-Esprit qui est donné, mais les énergies. Même si dans la phrase, c'est vrai que le Christ dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais ceci est interprété comme étant non pas le don de la personne du Saint-Esprit, mais le don des dons, ou du don du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ça intéressant, c'est le même terme. Voilà, il est donné un esprit saint, mais selon le don, la puissance, la grâce et l'énergie, et non pas l'hypostase même du très Saint-Esprit. De personne, en effet, celle-ci ne peut être reçue. Les charismes de l'Esprit, ses puissances et énergies naturelles, en aucun cas ne sont séparés de lui. Donc, attention, on fait une distinction entre les énergies du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit, mais cette distinction n'est pas une séparée, n'est pas une séparation. C'est comme ces énergies, elles sont incréées. Cette grâce est incréée, ce don est incréé. Donc ces dons procèdent directement de l'hypostase de l'Esprit. Mais ils ne sont pas cette hypostase. Les charismes de l'Esprit, donc, ne sont en aucun cas séparés de lui. Ils sont reçus d'une part de ceux qui sont dignes que le Saint-Esprit opère en eux, qui du fait d'être unis à eux, à lui, sont également loin de son énergie. C'est en effet le Christ est le seul oint de celui tout entier qui oint, est-il dit. Christ oint par la divinité, non comme les autres, qu'elle sanctifie son énergie, et par la présence tout entière de celui qui oint. C'est un petit peu compliqué, mais retenez ces deux thèmes théologiques fondamentaux, que ce n'est pas le Saint-Esprit en personne qui est donné, mais ce sont les dons du Saint-Esprit qui sont faits, bon, et qu'en ce qui concerne le Christ et nous, il y a cette différence, c'est que le Christ, il est habité par l'Esprit en personne, alors que nous, nous sommes habités par les dons du Saint-Esprit. Voilà. Alors, donc, ça, c'est assez important, vous voyez, parce que ce qu'on cherche, c'est ça, c'est à mettre en route, à mettre en œuvre ces dons du Saint-Esprit, à manifester comme la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit, je l'aurais dit, étant présent par ses énergies et par ses dons, et non pas personnellement. C'est que le Saint-Esprit garde toujours une transcendance par rapport à notre nature créée, à la différence du Christ. Enfin, le Christ garde une transcendance, enfin, c'est que le Christ s'est fait l'hypostase du genre humain. Et ce n'est pas le cas de l'Esprit. Ce n'est pas le cas de l'Esprit. L'Esprit Saint n'est pas l'hypostase du genre humain. C'est pour ça que, vous savez, même en ce qui concerne l'Église, on en parlera dans le cours sur la théologie de l'Église, mais c'est une erreur de parler de l'Église du Saint-Esprit, qui a une relation entre l'Église et l'Esprit. Je vais en parler tout à l'heure, c'est clair. Mais l'Église n'est pas l'Église du Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. L'Église est l'Église du Christ. La tête de l'Église, c'est le Christ, pas l'Esprit. L'hypostase de l'Église, c'est le Christ, c'est pas l'Esprit. C'est le Christ qui a en hypostasié la nature humaine, ce n'est pas l'Esprit. C'est le Christ qui est Dieu-homme, c'est pas l'Esprit. L'Esprit n'est pas Dieu-homme, non. Et donc c'est assez important, vous voyez, je pense quand on fait toutes ces distinctions, qui vous paraissent peut-être subtiles, un peu byzantines, en fait on les fait pour préserver aussi la distinction réelle entre le Fils et l'Esprit, qu'il n'y ait pas de confusion, que nous ne permettions pas de les glorifier de travers en les confondant. Donc notre glorification serait très inférieure à celle qui leur est due. Alors les pères, justement, après ça, si vous voulez, étant d'accord qu'il s'agit des dons de l'Esprit et non pas de l'Esprit lui-même, les pères ont développé beaucoup de choses, beaucoup je m'exprime mal, ont fait des développements nombreux à ce sujet, à propos des dons, justement. Par exemple, voici un texte de Saint Cyril d'Alexandrie, encore lui, dans les catéchèses mystagogiques au livre 3. D'abord, vous êtes chrismé sur le front, afin d'être délivré de la honte que le premier homme transgresseur portait partout, et pour que la face découverte, vous réfléchissiez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est très important d'être sur le front ici, cette onction sur le front fait allusion à la marque qui a été faite sur Caïn, dans le livre de la Genèse, après le meurtre d'Abel. C'est vraiment, vraiment extraordinaire, je n'avais pas pensé à ça. Ensuite, sur les oreilles, pour recevoir des oreilles, dont Isaïe disait, « Et le Seigneur m'a donné une oreille pour entendre. » Isaïe 50. « Et le Seigneur dans les évangiles, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. » Matthieu 11, 15. Donc ça veut dire que nous recevons, par l'onction, nous recevons un organe. Nous recevons un organe ou des organes de connaissance. C'est extrêmement important, je vais y revenir. ensuite sur les narines, afin qu'en recevant ce parfum divin, vous disiez, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés. C'est le chapitre des Corinthiens que vous avez déjà cité. Après cela, continue Saint Cyril d'Alexandrie, sur la poitrine, afin qu'ayant revêtu la cuirasse de justice, vous résistiez aux manœuvres du diable, ce qui est une citation de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. De même, en effet, que le Sauveur, après son baptême et la venue de l'Esprit-Saint, s'en alla combattre son adversaire, de même vous également, après le Saint-Baptême et la chrismation mystique, revêtus de la panoplie de l'Esprit-Saint, résistez à l'influence adverse et combattrez-la en disant « Je puis tout en celui qui me rend fort, le Christ ». Fin de citation de Saint Cyril. Alors, ceci est repris par d'autres pères, par exemple Saint Ambroise de Milan, qui lui insiste sur les sept dons de l'esprit. Ça, c'est typique de la théologie occidentale ancienne. Mais c'est dans les textes de Nicolas Cabasilas, je me renvoie bien sûr à la vie en Christ, au chapitre 3 de Saint Nicolas Cabasilas, il parle beaucoup de ça. Et c'est très beau, je vous oublie quelques textes, c'est quand même intéressant. Il dit « Ce que le crème procure aux chrétiens », citation de Saint Nicolas Cabasilas, « Ce que le crème procure aux chrétiens est un charisme de piété, de prière, de charité, de maîtrise de soi et des autres dons qui sont opportuns pour ceux qui les reçoivent. » Qui veut dire en fait, une multitude de dons. Le singulier employé, c'est un espèce de singulier collectif en quelque sorte. Le sceau du don du Saint-Esprit, c'est ce don, c'est comme le trésor, mais qui contient tous les dons. C'est ce que nous retrouvons dans la prière adressée au Saint-Esprit. Nous disons, roi céleste, consolateur, trésor des biens et donateur de vie. Trésor, le nom de trésor est au singulier, mais le singulier inclut le pluriel des biens. Trésor des biens, donateur de vie. Toi qui es partout présent, etc. Donc lui, il est le donateur, il donne la vie, il vivifie plus exactement, et il est un trésor au singulier comportant une multitude de dons. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous trouvez dans votre jardin, après avoir creusé ou voulu planter des carottes, vous trouvez une caisse extraordinaire, vous trouvez un trésor. Alors vous ouvrez cette caisse, et dans cette caisse, vous trouvez des milliers d'objets de prix en or, en argent, en diamant, enfin, je ne vous passe la description. Et donc, voilà, il y a une multitude de dons dans le don lui-même. Et alors, Saint-Nicolas Cabasilas continue, il y a encore une citation de la vie en Christ. « L'Esprit-Saint est donné en vérité aux uns pour qu'ils puissent faire du bien à leur prochain, et comme l'écrit Saint-Paul pour édifier l'Église en parlant de la vie future, en enseignant des mystères ou en délivrant des maladies par une parole, aux autres, pour qu'ils deviennent eux-mêmes meilleurs, resplendissant par la piété ou par la surabondance de leur tempérance, de leur charité ou de leur humilité. » Alors justement, c'est le même Nicolas Cabasilas qui dit que l'œuvre, c'est une citation encore, toujours du même endroit, l'œuvre du mystère de la chrismation est de communiquer les énergies de l'esprit de bonté. Bon, je ne sais pas, je pourrais vous citer de lire beaucoup d'autres textes, c'est quand même assez beau, hein, des textes, surtout de Saint Nicolas Cabasilas. Alors, donc, sur tous ces textes des pères, ce qui ressort, c'est l'idée que, en fait, la chrismation est donnée à l'être humain pour qu'il fasse fructifier tout ce qu'il a reçu dans le baptême. Là, donc, et ce qui veut dire que la vie chrétienne ne va pas être définie autrement que comme cela, c'est-à-dire accomplissement des promesses du baptême, accomplissement de la grâce baptismale. Mais cet accomplissement de la grâce baptismale, il se fait par la synergie entre la volonté de la personne et les dons du Saint-Esprit qui lui ont été conférés dans la sainte chrismation, vous voyez. Toujours Cabasilas dit, par exemple, la chrismation parfait le néophyte en lui communiquant les énergies et une activité en rapport avec cette vie. Donc là, c'est ça, donc c'est assez clair. La chrismation, ça permet à l'être humain de mettre en œuvre tout ce qu'il a reçu dans le baptême, d'actualiser en quelque sorte. Mais surtout, là, je conclue provisoirement là-dessus, ce qui est très important, c'est qu'en fait, la chrismation, donc, c'est l'œuvre de l'esprit. Alors, quelle est l'œuvre de l'esprit? Ceci a été bien expliqué par Père Demetrius Lanelloé dans sa dogmatique. Il a expliqué très bien ça, que l'Esprit-Saint, C'est celui qui permet à la personne, à l'hypostase humaine, l'hypostase créée, de s'accomplir. Alors ça, les pères anciens ne le disaient pas parce que la théologie de la personne créée n'était pas développée du tout encore. Mais donc la théologie néopatristique de notre époque, et particulièrement chez Vladimir Lossky et chez Père Dumitru, on a beaucoup développé justement cette théologie-là. Et ça permet justement de voir qu'est-ce que fait le Saint-Esprit pour nous. Le Saint-Esprit nous permet, si vous voulez, d'accomplir de façon personnelle, c'est-à-dire hypostatique, selon l'hypostase créée qui est la nôtre, d'accomplir ce que le Christ a opéré lui-même pour la nature humaine. Donc la distinction entre nature et personne, qui s'applique à Dieu, s'applique également, suivant cette théologie, s'applique également à l'être humain. L'être humain a la possibilité, mais par le Saint-Christmation, de faire ça. Et en actualisant de façon personnelle ce que le Christ a donné à la nature humaine, il se réalise lui-même, l'être humain, il se réalise lui-même comme hypostase créée, comme personne à l'image du Dieu personnel. Donc ça c'est important. Donc finalement, le thème de la ressemblance, hein, c'est qu'on dit que l'homme est à l'image et à la ressemblance, ou pour la ressemblance, ou en vue de la ressemblance avec Dieu, le « à la ressemblance », la deuxième partie de cette phrase, c'est la chrismation. Donc la première partie du verset, que l'homme a été fait à l'image de Dieu, ça c'est le baptême qui restaure l'image, qui restaure l'image du Christ en l'homme, et la deuxième partie, et à la ressemblance, ça c'est l'œuvre de la chrismation. Et ça c'est vraiment intéressant. Les deux piliers du projet divin, en fait, on les retrouve dans le baptême et la chrismation. J'ai parlé de ça. Alors, ce qui est intéressant, que je pourrais, dans le temps qui me reste, terminer là-dessus, ce sont les développements apportés par le Père Schmemann, donc indépendamment donc, de cette discussion préalable dont je vous ai fait part. Le Père Schmemann insiste sur quelque chose qui est très intéressant, c'est sur le fait que la chrismation développe en l'être humain la triple dignité du Christ. Vous savez, puisqu'on ne va pas vous l'apprendre, mais à votre niveau, vous savez que le Christ a été doué d'une triple dignité, qui est la triple dignité d'Adam au paradis, la dignité de roi, de prêtre et de prophète. Et cette triple dignité, justement, elle est mise en œuvre par les dons du Saint-Esprit. Père Schmemann explique bien ça, j'essaie de le retrouver, c'est dans « Dos et l'Esprit hein, » que je vous ai déjà cité. Voilà les trois, ce que nous dit Père Schmemann, page 131. En fin de compte, ce que nous devons donc faire, c'est retrouver dans toute la mesure du possible la signification réelle de ces trois dimensions essentielles de l'authentique spiritualité chrétienne, les dimensions royales, sacerdotales et prophétiques. Hein, le Christ est roi, prêtre et prophète. Voilà. Alors, donc, c'est assez important. Alors, ça veut dire que lui, il développe beaucoup ça, il dit que c'est vraiment l'énergie de la chrismation qui donne la capacité à l'être humain d'entrer dans cette triple dignité qui est en fait originelle. Cette originelle a été perdue par le péché, par la chute, etc. Elle est retrouvée dans le Christ qui, lui, en tant que nouvel Adam, ou second Adam, Adam parfait, est tout à fait dans cette triple dignité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez, du point de vue pratique, en quelque sorte, ce que c'est ces trois charismes, en quelque sorte, trois charismes fondamentaux qui résument les autres innombrables charismes dont on a déjà parlé un petit peu. Les trois charismes sont vraiment intéressants. Qu'est-ce que c'est que le charisme de la royauté? Et le charisme de la royauté, c'est le charisme de la responsabilité. Un roi, c'est un responsable. Et de quoi est-ce que tu es responsable? Eh bien, de quoi est-ce que responsable la personne baptisée et chrismée? Elle est responsable de la foi, du dépôt de la foi. C'est une des raisons pour laquelle on on accomplit la chrismation pour les personnes qui retournent à la vraie foi, ayant été baptisées dans une église séparée. Parce que comme il y a une restauration de la foi, on peut relire le credo inaltéré, le credo de Nicée-Constantinople dans sa version authentique, donc il y a restauration de la foi, et par la chrismation, tu deviens le roi de cette foi. C'est-à-dire le responsable de cette foi, le responsable du dépôt de la foi. C'est ça la royauté. La royauté, c'est le fait d'être... c'est ça un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui hérite d'une lignée, qui est inscrit dans une lignée royale, d'une part, c'est assez important. Il y a une affiliation, il y a une entrée dans une généalogie, qui est la généalogie des saints, la généalogie des fils et des filles de Dieu. Mais cette généalogie confère une responsabilité à l'égard du peuple dont ce roi est le roi, des citoyens, des sujets, de tout le patrimoine. Le roi est responsable de tout le patrimoine du peuple dont il est le roi. Et ce patrimoine, sur le plan de la foi, c'est le patrimoine qu'on appelle le dépôt et la tradition transmise au Christ, aux apôtres et par eux au Saint-Père. Donc c'est assez important, le baptisé par la chrismation devient gardien de la foi, devient gardien de la tradition, responsable de la tradition et tenu de garder ce dépôt de la foi, ce dépôt de la tradition jusqu'à les derniers temps, jusqu'au jugement dernier. C'est assez important. Or ça, c'est vraiment une dimension qui a tendance à se perdre chez les chrétiens, l'idée que tu es responsable de la foi, à titre personnel, que tu es responsable de la foi, que tu es responsable de la tradition, que toi qui vas garder allumée la lampe transmise par les saints-pères, que tu t'inscris dans la tradition des saints-pères, à ce moment-là, que tu deviens avec eux dépositaire du trésor du patrimoine traditionnel, ça c'est une idée qui quelquefois est oubliée chez nous. Donc, c'est ça la royauté. D'accord. Et le deuxième charisme, je l'ai mis, c'est le charisme sacerdotal. C'est extrêmement important, évidemment, mais c'est un peu plus connu quand même chez nous. Par la chrismation, donc l'être humain donc accède ou est restauré dans une dignité paradisiaque, hein, qui est la dignité sacerdotale, c'est qu'il devient, d'une part, il devient membre du sacerdoce du Christ, parce qu'il est assimilé au Christ, il est affilié au Christ, il est affilié au Père par le Christ, non ? Donc il communie au charisme sacerdotal du Fils, il devient membre d'une assemblée sacerdotale qui est celle des baptisés, mais il retrouve aussi son ontologie, sa sacerdotale, sa fonction paradisiaque, qui était d'offrir à Dieu tout ce qui vient de Dieu, rendre à Dieu tout ce qui vient de Dieu. Le baptisé est un prêtre, vous voyez. Le baptisé, le chrismé, est un prêtre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça va être confirmé par ce qui suit immédiatement la chrismation. Qu'est-ce qui suit immédiatement la chrismation? Eh bien, c'est la procession, la triple procession autour du baptistère et de l'évangile. Or, cette triple procession autour de l'évangile, qu'on retrouve pour l'évêque, pour le prêtre et pour le diacre, c'est une procession qui signifie une ordination. Le caractère sacerdotal du baptisé et de la grâce sacerdotale qui lui est conférée par la chrismation ressort justement de cette triple procession. Il est ordonné à l'évangile, c'est-à-dire, c'est un rite de consécration. Qu'est-ce que c'est qu'une ordination? Une ordination, c'est une consécration. Mais tu es consacré au service de l'évangile et de tout ce qu'il y a autour. Et donc l'évangile, c'est principalement l'offrande de celui qui s'offre et qui est offert, qui se donne et qui se distribue. Donc le mystère du Christ, par l'ordination, on va dire l'ordination chrismale, le baptisé devient un offrant. Il devient celui qui offre et qui s'offre et qui offre tous les jours de sa vie, non seulement sa propre personne, mais surtout il offre au Père la parole que le Père lui a donnée. C'est-à-dire que être prêtre, être membre du sacerdoce, qu'on soit homme et femme, bien entendu, il n'y a qu'une distinction là-dedans, consiste à offrir à Dieu ce que Dieu nous a donné. Ce qui est à toi, nous qui sommes à toi, nous te l'offrons pour ceux qui sont à toi. Et puis, troisièmement, le charisme prophétique. Alors, qu'est-ce que c'est que le charisme prophétique? On peut bien se le demander, mais donc il est tout à fait... c'est le troisième charisme des baptisés, le troisième charisme conféré par la Sainte Chrismation. Le prophétisme, c'est essentiellement la conscience de la volonté divine et de la présence du Christ en tout par le Saint-Esprit. Le prophétisme, c'est pas dans l'Israël des baptisés, ce n'est pas un charisme tellement personnel, c'est un charisme ecclésial, c'est en tant que communauté que l'Église est prophétique. Et bien dans l'Apocalypse, on dit « Tu as fait de nous des rois, des prêtres et des prophètes ». Donc ici, un pluriel, on n'est pas roi à titre personnel, on n'est pas prêtre à titre personnel, on n'est pas prophète à titre personnel, on est prêtre à titre ecclésial, à titre communautaire. Donc le charisme prophétique, il est donné à l'Église, il est donné à des personnes, bien entendu, mais il est donné par des personnes, il est donné à l'Église, et donc c'est l'Église en tant que communauté prophétique qui voit, qui connaît la présence du Christ. Et ça se manifeste beaucoup dans le charisme théologique, et encore plus dans le charisme de la théologie mystique, de l'initiation spirituelle, de la... regardez ce qui se passe chez les saints, chez les Sérapins de Sarov, les Chinois, les Martin de Tours, enfin, dans beaucoup de saints, on voit que ces personnes avaient ce charisme prophétique qui leur faisait voir la présence du Christ en toute chose, voir le Christ présent dans l'Eucharistie, voir la présence du Christ dans les pauvres, dans les gens souffrants. Par exemple, cet évangile que nous avons le jour du jugement, vous savez, quand le Christ dit « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites », cette parole-là, elle est belle, mais est-ce que je le vois? Est-ce que je le sais? Est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que je connais véritablement, expérimentalement cette parole-là? Vous voyez, c'est ça l'esprit prophétique. C'est l'esprit prophétique qui consisterait à accomplir véritablement cette parole du Christ et à le voir présent en tout. Et à voir, vous savez, c'est l'esprit prophétique de l'Église, par exemple, consiste à discerner les signes des temps, à interpréter l'histoire, à interpréter l'actualité, à faire des propositions aussi pour les temps présents ou les temps qui viennent. C'est très... La prophétie, c'est vraiment le dévoilement des desseins de Dieu pour son peuple précis et pour l'humanité tout entière, pour le cosmos tout entier. C'est pour ça que toute préoccupation humaine, anthropologique, cosmologique, sociologique, écologique, c'est ça, toutes ces préoccupations-là sont de l'ordre prophétique, parce que ce sont des préoccupations qui naissent chez l'homme de sa capacité à voir la volonté de Dieu et à la connaître. Le prophétisme, c'est le carré de la connaissance. Vous voyez, la royauté, c'est le charisme de la responsabilité, le sacerdoce, c'est le charisme de l'offrande, et le prophétisme, c'est le charisme de la connaissance. Or, nous sommes appelés à la connaissance parfaite de la vérité par la glorification du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voici, je m'arrête là-dessus, je conclue là-dessus, voilà donc cette présentation du sacrement du Saint-Crème, la chrismation, alors que nous entrons dans le carême, et que le carême est justement un temps fait pour les catéchumènes, pour ceux qui se préparent au Saint-Baptême, et qui se préparent à la Sainte Chrismation. Vous voyez, il faudrait faire attention à cela, ne pas oublier que la préparation au baptême, c'est la préparation à la Chrismation, et je dirais aussi, mais là je m'arrête, c'est promis, que voir le carême comme simplement allant jusqu'à Pâques, ce n'est pas suffisant. Il faut voir que le carême dans lequel nous engageons à partir de dimanche, c'est un itinéraire qui nous conduit à la Pentecôte. C'est-à-dire que l'enjeu véritable du carême, c'est l'expérience du Saint-Esprit. L'enjeu véritable du carême, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et donc, c'est-à-dire que l'enjeu véritable du baptême, c'est la chrismation. Et c'est parce que cet enjeu est très très clair que nous pouvons communier aussi au corps et au sang du Christ avec joie et avec une conscience de la vérité, avec des larmes de joie, ce qui est vraiment la communion véritable. À Dieu soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Merci à tous pour votre attention, votre indulgence, votre bienveillance et votre présence. Et donc à une prochaine fois.